France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et nous sommes le mardi 14 mai. Bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, l'hommage solennel de la France à ces deux soldats tués en mission au Burkina Faso. Ils ont donné leur vie pour en libérer d'autres, a dit le chef de l'État qui va présider la cérémonie en fin de matinée aux Invalides. Leur courage suscite également l'admiration des jeunes recrues. On voit ça avec vous, Agnès, après les autres titres.
Ma French Banque, une filiale 100% mobile de la Banque Postale, une mystérieuse série de morts par arbalète en Allemagne, l'hydroélectricité, une énergie pas si verte que ça, et puis première montée des marches à Cannes, le festival débute ce soir avec le film de Gene Jarmusch.
Et justement, invité de France Inter ce matin, bonjour Alexandra Ben Saïd.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous, oui.
7h50.
Oui, il sera en haut des 24 marches de la gloire pour accueillir les stars et les zombies ce soir. C'est le président du Festival de Cannes, Pierre Lescure. À tout à l'heure.
À tout à l'heure, oui. À 8h20, autre salle, autre ambiance, comme on dit. La suite de nos grands entretiens spéciaux pour la dernière ligne droite de la campagne des européennes. Une tête de liste par jour au micro d'Inter. Aujourd'hui, c'est Raphaël Glucksmann pour la liste PS Place Publique. Intervenez dès maintenant, le standard est ouvert. 01 45 24 7000.
France Inter.
Cédric de Pierrepont avait 33 ans, Alain Bertoncello 28. Leur mort au Burkina Faso lors de l'opération pour libérer les deux otages français a bouleversé la France. Leurs cercueils recouverts du drapeau tricolore pénétreront ensemble tout à l'heure dans la cour des Invalides, sous les notes du Bagdad de Lanbiwe, des cercueils liés par une sangle de vie, la même qu'utilisent les nageurs du commando Hubert, des bérets verts considérés comme l'élite de l'armée et qui inspirent des milliers de jeunes comme Quentin, 21 an, il termine sa première session de formation à Vincennes. Thibault Lefèvre l'a rencontré.
C'est un rêve de gosse. Depuis ses 7 ans, Quentin, cheveux ras et buste droit, imagine intégrer un jour les forces spéciales.
Ça fait toujours rêver de faire partie entre guillemets de l'élite et de réussir. Voir des personnes toujours se surpasser et donner le meilleur d'eux pour les autres au final, parce qu'ils ne vivent pas pour eux mais pour tout le monde. Je trouve ça beau.
Et pour Quentin, le sacrifice fait évidemment partie du métier.
Quand on s'engage, on sait très bien que la mort peut arriver. Ils savaient ce qu'ils faisaient, ils avaient conscience du danger. Mais mourir pour sauver des vies, plonger dans le danger comme ça sans hésiter, c'est pas quelque chose de facile et donné à tout le monde, je pense.
Des soldats d'exception, qu'il est parfois possible de repérer très tôt. C'est une partie du travail de la capitaine Émilie. Elle est psychologue et formatrice.
Un soldat dans les forces spéciales, on va lui demander un potentiel intellectuel comme assez élevé. Il faut être capable de prendre des décisions si la situation l'exige. Il faut être capable de réfléchir vite et bien. On va être beaucoup plus exigeant pour des régiments, des forces spéciales. Donc ça fait partie des choses qu'on regarde.
Seules quelques dizaines de soldats intègrent chaque année les forces spéciales. L'armée recrute environ 15 000 militaires par an. Ils sont deux fois plus nombreux à postuler dans les centres de recrutement et sur le site s'engager.fr.
La cérémonie dans la cour d'honneur des Invalides débute donc à 11h, à suivre en direct sur France Inter. Un discours très attendu du chef de l'État en présence des familles et des officiels. Hier déjà, les honneurs militaires leur ont été rendus et puis leurs camarades du commando Hubert leur ont dit adieu. C'était dimanche sur la base militaire française à Gao, au Mali. Image impressionnante de ces dizaines de militaires alignés le long de la route au passage des cercueils jusqu'à l'avion ramenant les corps en France.
Il est 7h04, Agnès. L'actualité, c'est aussi l'ouverture du Festival de Cannes.
72e festival et l'éternel tapis rouge pour une montée des marches sous le crépitement des appareils photo et sous le soleil ce soir. Pour un casting exceptionnel jusqu'au 25, Sylvester Stallone, Penélope Cruz, Leonardo DiCaprio, Julianne Moore, Alain Delon, Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant, pour ne donner que quelques noms. On parlera parité, probablement de Netflix aussi, et surtout, Eva Bettan, des 21 films en compétition, des films, des cinéastes, du cinéma.
Tout de suite, l'air s'est empli d'électricité. Tarantino et Kechiche grimpant dans la compétition à la dernière minute de frapper de cinéma dans des registres opposés. L'un, son cinéma se nourrit du cinéma, l'autre veut capturer la splendeur d'avoir 20 ans. L'un aligne DiCaprio et Brad Pitt, l'autre des inconnus. Eux deux comme exemple de la promesse qu'est ce festival, vous allez voir ce que vous allez voir des artistes au travail. Cannes n'est pas le lieu de l'angélisme. Ici, des films s'achètent et se vendent, rien de nouveau. Mais voici qu'a été inventé il y a peu le chéquier sans limite. Cela s'appelle Netflix et nous n'en sommes qu'au début de la révolution. C'est une année de répit pour le festival. Il n'y a pas eu à leur dire non. Aucun de leurs films n'était prêt. Imaginez dire non au film de Scorsese. Répit temporaire, mais au fond, cet appétit de Netflix pour les auteurs vient rappeler cette évidence et dire leur valeur. Au commencement de tout, il y a eux, les réalisateurs du monde entier. Le français Ladj Ly parle de Montfermeil. Le coréen Bong Joon-ho de Classe sociale. Almodovar vieillit magnifiquement pour ne citer que cela. Alors pour les réalisateurs, tapis rouge à Cannes, Eva Bétan, France Inter.
Et rendez-vous à 7h24 pour Cannes & Co, le journal du festival avec Corinne Pellissier. Comme un mauvais film hier pour les avocats de Patrick Balkany qui ont multiplié les recours pour obtenir le renvoi et le dépaysement du procès du maire de Levallois-Perret et de son épouse. Sans succès pour l'instant, malgré l'absence d'Isabelle Balkany, toujours hospitalisée. Le procès qui s'est ouvert hier reprend aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. Justice encore avec la mise en examen pour viol et agression sexuelle d'un prêtre de Versailles. L'enquête a été ouverte en décembre 2016 après la plainte déposée par une mère et sa fille. Le prêtre conteste catégoriquement les faits et va déposer une requête pour tenter de faire annuler cette mise en examen. Le nom est anglais, mais c'est pour mieux séduire la jeunesse française. La Banque Postale lance Ma French Bank, une filiale 100% mobile. Tous les acteurs du système et les géants du téléphone comme Orange Bank se lancent dans l'aventure depuis 2-3 ans. Sans grand succès jusqu'à présent, mais le développement des nouveaux usages via le téléphone mobile a donné de nouvelles perspectives aux acteurs du marché. Adrien Toffoli.
Aujourd'hui, 7% des Français ont souscrit à une offre néobanque, notamment pour les usages du quotidien. 70% d'entre eux ont un compte courant. C'est simple, rapide, porté par des offres à tarifs très réduits en plus. Et si la cible de ces banques est jeune, entre 18 et 35 ans, ce n'est pas un hasard. Julien Maldonato, du cabinet d'audit et de conseil Deloitte.
Au départ, on peut, entre guillemets, se faire la main sur un public peut-être plus indulgent, en tout cas très appétant par la simplicité sur mobile, et puis progressivement s'ouvrir plus largement à toute la population française.
Car les différents acteurs du secteur le savent bien, dans quelques années, certes, nos téléphones seront nos cartes bancaires, mais le marché est voué à évoluer au-delà des simples jeunes qui cherchent des facilités de paiement avec de nouveaux produits.
Tous les acteurs ont pour projet, en fait, de multiplier ensuite les produits disponibles sur le mobile. Donc au départ, ça commence par le compte courant simple, puis progressivement, on va essayer de proposer des produits d'épargne, du financement, du crédit, de l'assurance.
Et tout cela est une question de survie, car attirer un seul public de niche, des revenus limités, sans compter que tout le travail de séduction, les offres et avantages à frais réduits, à grands coûts de campagne publicitaire, tout cela coûte très cher, trop cher. La plupart des néobanques ne dégagent pas de bénéfices. La bascule doit donc arriver très vite.
L'école de la confiance, le projet de loi Blanquer arrive au Sénat et devrait être modifié durant les 3 jours de discussion, car les sénateurs de droite comme de gauche fustigent un manque de concertation et de dialogue. Nous reviendrons dans le journal de 7h30.
Il est 7h08, Agnès, un troisième revers judiciaire pour le Roundup.
Son fabricant Monsanto, racheté l'an dernier par Bayer, a été condamné par un tribunal américain à verser 2 milliards de dollars à un couple de septuagénaires de San Francisco atteint d'un cancer. Le couple a utilisé ce désherbant pendant près de 30 ans. Correspondance depuis les États-Unis dans le journal de 8h. Sur fond de bras de fer commercial entre la Chine et les États-Unis, Wall Street a clôturé en forte baisse hier soir, moins 2,4%. Et ce matin, ouverture en net recul des places financières asiatiques. Donald Trump qui annonce ce matin qu'il s'entretiendra avec son homologue chinois fin juin au G20 au Japon. Meurtre ou suicide collectif, une étrange affaire secoue l'Allemagne. Les corps de 5 personnes ont été découverts ces derniers jours. D'abord 3 dans un hôtel en Bavière. Les corps transpercés de flèches d'arbalète. Puis 2 autres corps dans un appartement en Basse-Saxe. Une affaire encore très nébuleuse, David Philippot.
Main dans la main, un homme de 53 ans et une femme de 33 ans allongés sur un lit. Le corps percé de flèches d'arbalète. Sur le sol, le cadavre d'une femme de 30 ans. Une flèche plantée dans le torse, 3 arbalètes sont retrouvées à côté d'eux. C'est la scène macabre que la femme de chambre d'une auberge a découvert ce week-end. Les enquêteurs essaient de comprendre l'enchaînement des faits. Avec l'autopsie débutée hier, dont on attend les résultats aujourd'hui, et de possibles indices pour tenter de trouver le motif de ces morts. S'agit-il d'un suicide collectif ou d'assassinat? Les policiers excluent toute intervention extérieure. Ils vont également tenter d'établir le lien avec le corps des 2 femmes retrouvées à 700 km de là, dans l'appartement de la victime gisant sur le sol de l'hôtel bavarois. Selon le journal Bild, 2 testaments ont été retrouvés dans cette chambre. Berlin, David Philippot pour France Inter.
C'est une énergie renouvelable, mais elle met en danger des populations en Amérique du Sud, en Afrique ou en Chine. L'hydroélectricité est au cœur d'un congrès mondial qui débute aujourd'hui à Paris. Et Sossion, c'est bien qu'il y aurait des barrages géants qui provoquent la colère des ONG.
Des forêts détruites, des rivières transformées en lacs, ces méga-barrages ne sont pas sans effet. Loin de là, Assosa est venu spécialement du Gabon pour manifester en tenue traditionnelle pygmée devant ce congrès mondial de l'hydroélectricité.
On nous enlève tout. Toute la forêt, les eaux sont polluées, les rivières d'eau douce sont polluées et tout le reste. Si on a déjà tout détruit, on n'a plus rien, on n'aura plus rien là. Je ne sais pas comment on va vivre. Avec les pluies, ça inonde même jusqu'à nos plantations et ça nous détruit complètement.
À ses côtés, Geert Pieterbroeck de l'ONG Planète Amazon s'insurge surtout contre les arguments des grandes entreprises pour qui ces méga-barrages sont une solution contre le changement climatique.
On dénonce l'imposture des barrages verts, des barrages propres. Les barrages ne sont pas verts parce qu'ils produisent dans le monde entier 4% de toutes les émissions de gaz à effet de serre de l'activité humaine. C'est 4%, c'est-à-dire que c'est plus que l'industrie de l'aviation. Si vous faites un grand barrage en zone tropicale, très souvent vous inondez des zones de forêt et le bois pourri à l'intérieur de l'eau et produit du méthane. Et ce méthane, il est 23 fois plus puissant comme gaz à effet de serre que le CO2.
Plusieurs centaines d'organisations demandent d'ailleurs que le Fonds vert pour le climat, créé pour financer des projets de lutte contre le réchauffement, ne subventionne plus ces barrages géants.
Un deuxième Molière pour Blanche Gardin hier soir lors de la cérémonie qui récompense le théâtre français et une soirée marquée par une courte intervention des Gilets jaunes coupée au montage par France 2.
La politique qui s'invite aussi à l'Eurovision.
Grande finale samedi à Tel Aviv. Des organisations opposées à la colonisation appellent au boycott. Israël espère de son côté se servir de cette vitrine pour améliorer son image auprès des Européens. Correspondance d'Étienne Monin en Israël pour France Inter.
Avant même le coup d'envoi des festivités, l'Eurovision pour Israël, c'est une histoire d'amour derrière laquelle on trouve à la fois un sentiment profond et des arrière-pensées. Renoul Daï est le maire de Tel Aviv qui héberge l'événement.
Pour Tel Aviv, l'Eurovision est une opportunité qui arrive une fois dans une génération. Tel Aviv va accueillir des milliers de touristes et on sera vu par des dizaines de millions de spectateurs.
Israël a déjà gagné 4 fois l'Eurovision. Il y a une véritable passion entre ce pays et l'événement, dit Dan, français qui gère une pizza.
Ici, ils aiment beaucoup l'Eurovision en Israël. Depuis très longtemps, ils ont gagné déjà plusieurs fois et c'est un événement national ici.
Mais les Israéliens espèrent aussi changer leur image en Europe. La relation entre le vieux continent et le gouvernement est tendue. Chaque Israélien devient donc ambassadeur. Isaac Cohen est le premier dans le pays à avoir gagné l'Eurovision.
Tel Aviv est une ville fantastique. Israël est un pays merveilleux pour les touristes. On est très heureux ici. Grâce à Dieu, les tirs de roquettes depuis Gaza ont cessé et j'ai le sentiment que cette Eurovision sera l'un des meilleurs.
Dans cette opération, Israël est accusé de vouloir gommer la réalité de l'occupation. Un groupe d'organisations appelle à une contre-soirée pour la finale samedi. Jérusalem, Étienne Monin, France Inter.
Et parmi les favoris de la finale, Nicolas, le français Bilal Hassani.
Oui. Merci Agnès Soubiran. On fait un premier point route, Soisigbourg.
Point route avec les cours Legendre. Cours à domicile, stage de révision et cahier de vacances par des professeurs de l'éducation nationale. Info, cours-legendre.fr.
Soisig, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Un accident dans le Nord.
Mais oui, sur la 1, au niveau de Libercourt, quand vous allez vers Lille, il y a près de 3 quarts d'heure de bouchon depuis Courcelles-Lélan. C'est 25 minutes quand vous venez de la départementale 917. Dans le sud-ouest, il y a du monde sur la 10, de Gauriaguet jusqu'à Sainte-Eulalie, dans les deux sens de circulation. Et puis en Haute-Garonne, attention sur la 62, entre Bordeaux et Toulouse, une voie est fermée. Au niveau de Boulogne, il y a des ralentissements jusqu'à l'Espinasse.